Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à l'antenne d'Aligre FM sur le 93.1. Amis auditrices, amis auditeurs, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de version originale, comme chaque samedi à 19h à notre antenne. Les éditions Wild Project nous proposent une traduction du livre d'Enrique Doucel, 1492, L'occultation de l'autre. Aux origines du mythe de la modernité. 1492, l'occultation de l'autre, c'est le fruit d'une série de 8 conférences données à Francfort à l'université Goethe d'octobre à décembre 1992 à l'occasion du 500e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. La thèse centrale de ce livre d'Enrique Doucel, paru en 1992, est que l'année 1492 marque la naissance de la modernité. L'origine de la modernité se trouve donc dans les villes franches de l'Europe médiévale, mais cette modernité voit le jour, se déploie véritablement lorsque l'Europe se confronte à l'autre dans les Amériques en 1492. Dans ce moment où l'Europe a pu contrôler l'autre, le vaincre et lui faire violence. Enrique Doucel souligne que cet autre n'a pas été découvert, considéré comme autre, mais occulté par l'Europe. Nous en parlons avec Emmanuel Levin qui a traduit l'ouvrage 1492, l'occultation de l'autre. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM, Emmanuel Levin. Vous êtes donc chargé de recherche au CNRS. Vous êtes également directeur de la collection Diaspora, aux éditions Kalman-Lévy. Et je rappelle que vous faites partie de l'équipe archive Hörsel. Et vos champs de recherche sont la phénoménologie, la philosophie sociale et politique, la philosophie latino-américaine. Donc, le livre qui nous préoccupe, donc, c'est ce livre d'Enrique Doucel, 1492, L'occultation de l'autre. Il est donc philosophe, théologien et historien argentin, naturalisé mexicain. Il est né donc en 1934 et meurt en 2023. Enrique Doucel a écrit une cinquantaine de livres, traduits dans plus de 6 langues. L'œuvre de cet influent penseur latino-américain a fortement inspiré le mouvement décolonial. Dans ce livre, il considère que pour les philosophes comme Hegel et Habermas, la découverte de l'Amérique n'est pas un élément déterminant. Il entend d'ailleurs démontrer le contraire. Emmanuel Levin, Enrique Doucel est né en Argentine et il choisit de devenir mexicain. Pourquoi ce choix? Comment cela s'est fait?
C'est pas exactement un choix spontané et libre, c'est le fruit de l'exil. Doucel est né en Argentine, il s'est formé en Argentine, il s'est formé en Europe, il a passé 2 ans aussi en Israël, avant de venir en France, puis en Allemagne, et revient en Amérique latine en 1967. Voilà, donc la fin des années 60, et au début des années 70, en Argentine, il y a la recrudescence de mouvements péronistes d'extrême droite, qui mettent en danger certains intellectuels de gauche, comme Doucel. Et donc il y a un attentat qui vise à la bombe, qui vise sa maison en 73. Il est viré de l'université en 75, et il décide donc de s'exiler à ce moment-là au Mexique. Et de prendre par la suite la nationalité mexicaine. Et il fait en fait, les 2/3 de son œuvre au Mexique, adressée d'abord au public mexicain et au public latino-américain en général et au monde plus largement aussi. Donc voilà, ça va être un philosophe mexicain ensuite qui va s'engager en politique au Mexique et notamment aux côtés du parti Morena qui est le parti encore au pouvoir aujourd'hui.
Et alors restons sur cette idée, puisque le sous-titre du livre, en tout cas tel qu'il est présenté par les éditions Wild Project, c'est aux origines du mythe de la modernité. Alors la modernité, c'est un terme galvaudé, on le prononce souvent pour beaucoup de choses, il y a quelque chose de moderne. Dans quelle mesure donc est-elle un mythe, cette modernité? Pourquoi parle-t-il de mythe de la modernité? Donc, comment passe-t-on donc du concept de modernité au mythe de modernité? Ouais.
Je dirais qu'il y a au moins il y a 2 choses. Il y a le fait qu'il y a un mythe européen de la modernité c'est, donc Dussol parle de mythe européen de la modernité, d'ailleurs c'est un des grands concepts des pensées décoloniales, elles se nourrissent de ce concept-là, donc concept critique. Le mythe européen de la modernité, c'est de dire que la modernité est née en Europe, elle est interne à l'Europe, et il va falloir civiliser les autres populations en apportant la modernité à l'extérieur de manière pacifique, plus ou moins, en tout cas justifiée comme pacifique, légitimée comme telle, donc apporter cette modernité née en Europe. Et Dussol va montrer que ce n'est pas du tout le cas, que les prémices de la modernité, on en a parlé des villes franches médiévales, il y a peut-être des prémices artistiques, scientifiques, économiques de ce qui deviendra la modernité, mais la modernité elle est profondément liée au choc, ce qu'on appelle le choc culturel, au choc de ce qui a été ensuite nommé la découverte des Amériques, qui est donc quelque chose de profondément relationnel. C'est lié profondément à la colonisation, à la conquête, puis à la colonisation, l'évangélisation, à la domination. Et donc le mythe européen de la modernité vient occulter cette nature relationnelle, oppressive de la modernité. Et dire que la modernité, en fait, elle est née non pas dans le centre européen, mais elle est née dans la périphérie. Elle est née dans les périphéries et elle est née de manière extrêmement violente. Ce qui serait donc le deuxième point, c'est il y a un mythe sacrificiel de la modernité, c'est ça le deuxième point, il y a un mythe européen de la modernité, il y a un mythe sacrificiel de la modernité, au sens où la modernité, les discours sur la modernité, ou les discours qui ont formé la modernité, qu'est-ce que l'homme, ce genre de qu'est-ce qu'une culture, qu'est-ce que la civilisation, qu'est-ce qu'un sauvage, tous ces discours-là, en fait ont servi à légitimer la conquête, la colonisation, l'esclavage, l'oppression continuelle. Et donc, il y a un mythe sacrificiel au sens de c'est ça qui a servi à sacrifier des populations, des savoirs, des cultures, des territoires, au profit du centre européen. Et donc, ça, c'est ce mythe sacrificiel de la modernité, c'est le revers, la face obscure, le côté obscur, la part cachée, occultée de ce que vous avez appelé le concept de la modernité, qui est le concept par lequel j'aurais dû commencer en tant que philosophe. Le concept de la modernité, on nous dit la modernité, c'est l'émancipation, c'est le savoir, la vérité, c'est la quête, la recherche de la vérité, c'est le droit, c'est les droits humains, c'est tout ça. Et Dussol va dire, bah, ça c'est la part lumineuse, la part lumineuse qui est en fait plombée par une face obscure qu'on a eu tendance à trop occulter.
D'ailleurs, il a fallu attendre 1492, au moment où Christophe Colomb arrive dans les Amériques, pour que l'Europe affirme une forme de centralité et considère les autres pour la périphérie. Mais ce qu'il y a de particulier dans cette démarche, c'est que le titre du livre, c'est bien l'occultation de l'autre. Cet autre, d'ailleurs déjà, comme vous le voyez dans le livre, Dussol ne veut pas parler de rencontre. Ce n'est pas une rencontre entre des Européens et des Amérindiens. Donc là, ce qui se passe, c'est que cet autre, il est occulté. C'est-à-dire, que signifie justement pour les Européens d'occulter l'autre, au sens de Dussol? Comment vous le comprenez?
C'est-à-dire,
l'autre, c'est quand les Européens arrivent dans les Amériques, hein, entendons bien, c'est un fait historique.
Oui, les discours sur la rencontre étaient justement les discours positifs, ce voulant positif qui entourait le 500e anniversaire en disant c'est pas une conquête, c'est pas une invasion, c'est une rencontre entre deux cultures, sous-entendu une rencontre d'égal à égal et une rencontre pacifique. Ça a été ni l'un ni l'autre. Donc l'occultation de l'autre, on peut le comprendre de plusieurs manières. La première manière, c'est pour Dussol, il reprend là des concepts d'Emmanuel Lévinas, qui était un de ses maîtres. Il y a le moi et l'autre. L'autre, c'est quelque chose qui est radicalement extérieur à moi, radicalement autre. Le problème avec la conquête, la colonisation, l'évangélisation, c'est que les Indiens, ce qu'on va appeler les Indiens, les peuples indigènes, les peuples autochtones, n'ont pas été reconnus comme autres. Ils n'ont pas été reconnus comme autres dans leur altérité. Ils ont été reconnus comme quelque chose qui correspondait à des préjugés, comme ce qui était déjà le même de ce qu'on croyait savoir. Et donc on croyait savoir quoi ? Que c'était des Indiens. On cherchait la route vers les Indes, une route qui passerait par ce côté-ci du monde, de la Terre. Et on s'est rendu compte ensuite que c'était pas les Indes, mais c'était un nouveau monde. Sous-entendu, si c'était un nouveau monde, ça veut dire qu'il n'y avait rien avant aussi. Et donc toutes ces problématiques sont résumées par cette appellation l'occultation de l'autre. L'occultation de l'autre, il y a une autre facette, c'est en espagnol, le terme c'est encubrimiento. Et ça, c'est généralement aussi utilisé pour dire quand une affaire judiciaire, on essaye de faire taire et on essaye de passer sous le tapis quelque chose. Quand une affaire, on va la mettre au placard. Il y a aussi cette idée-là de dire, on a essayé d'occulter toute cette histoire sanglante. Et on va dire, non, c'est une rencontre entre deux cultures. Ça, c'est bien, ça, la rencontre. Donc, dire qu'il y a eu occultation et qu'il y a encore occultation, c'est un geste critique très, très fort dès le titre.
Il y a la réflexion de Doucel, qui est d'ailleurs reprise en couverture du livre. Persécuter l'autre innocent en le déclarant coupable de sa propre persécution et innocenter entièrement le sujet moderne de ce crime, voilà en quoi consiste le mythe de la modernité. C'est une cruauté sensée.
C'est ça le mythe sacrificiel de la modernité. C'est exactement ça. C'est plus ou moins conscient, plus ou moins volontaire de la part des différents auteurs, théologiens, philosophes, hommes politiques, commerçants, prêtres, tout ça, qui ont participé à ces discours-là. Mais l'effet est le suivant, c'est-à-dire persécuter, culpabiliser la victime et innocenter le coupable.
Je vous confonds un peu avec l'auteur, parce que c'est la traduction, mais c'est vrai que le livre est écrit, c'est le livre d'Enrique Doucel que vous avez traduit. J'ai tellement l'habitude d'interviewer quelqu'un qui écrit un livre. Donc, ce qui est frappant, c'est qu'on voit que cette idée, ce présupposé de l'autre, prend des racines. À des racines profondes, notamment, il passe du temps sur la pensée de Hegel. Comment, dans l'histoire, Hegel a déjà construit un autre qu'il ne connaît même pas. Et c'est un peu cet autre dont va se nourrir des navigateurs, notamment comme Christophe Colomb.
Donc il y a vraiment une critique féroce de l'eurocentrisme qui ouvre le livre et le coupable principal, c'est Hegel. Et Hegel est celui qui a un système théorique qui met l'Europe au centre, l'Europe du Nord, l'Allemagne, et le reste non seulement à la périphérie, mais dans une sorte de ce qu'on appelle une téléologie, donc ça veut dire ce qui va vers une fin. Et la fin de l'histoire, c'est le Saint-Empire germanique, quoi. Donc tout le reste est. Et secondaire, périphérique, impur, sauvage, barbare, brut, sauf ce qui mène à cette fin-là, cette fin d'histoire. Après, ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est la manière dont Enrique Doucel va débusquer chaque moment, chaque partie du discours de Hegel qui parle justement de la colonisation, de la conquête, en montrant que, décidément, son système théorique est bien en accord avec sa pensée politique, les bribes de pensée politique qu'on trouve dans ses textes théoriques. Et c'est vraiment, pour Doucel, c'est symptomatique d'une pensée plus large, qui n'est pas seulement la pensée de Hegel, mais qui est la pensée occidentale, quasiment tout entière, quoi, victime de cet eurocentrisme qui empêche de penser.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous êtes dans version originale, je reçois Emmanuel Levine qui a traduit le livre 1492, L'occultation de l'autre, d'Enrique Doucel, publié aux éditions Wild Project. Doucel établit une distinction conceptuelle entre l'invention, la découverte, la conquête, la colonisation. Si la découverte, la conquête, la colonisation nous semble plus familière, l'invention, dans ce contexte-là, l'est beaucoup moins. Qu'est-ce qu'il entendait par invention de l'Amérique ?
C'est l'idée que l'Amérique...
Parce qu'en même temps, elle est bien réelle, cette Amérique.
C'est bien ça le problème. C'est que l'Amérique n'a pas été reconnue, enfin l'Amérique à Biala, ou les territoires où vivaient les peuples autochtones, n'a pas été reconnue comme une terre peuplée, avec une histoire et des cultures, des histoires. Elle a été d'abord une invention, un postulat. Elle a été une invention théorique dans la subjectivité, dans l'esprit des conquistadors. Donc ce qui est très important, c'est que, peut-être on peut le dire, il y a trois parties dans le livre. La première partie, c'est l'histoire de la conquête et de la colonisation du point de vue des conquistadors. Donc ça veut dire qu'est-ce qui se passait dans leur tête quand ils étaient en train de conquérir et de coloniser, et de massacrer, et de violer, et de détruire des villes entières. Qu'est-ce qui se passait dans leur tête, mais aussi quel était leur rapport au temps, quel était leur rapport à l'espace, quel était leur rapport aux autres, des questions de quelle était leur existence vécue en première personne. Voilà. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça ? Ça, c'est toute la première partie du livre. Et donc, la question de l'invention se pose dans ce cadre-là. Ça veut dire, comment est-ce qu'eux ont vécu, justifié, perçu, parfois rétrospectivement, leur grande découverte, comme on les a appelés. Et donc, ça a été la première figure de leur expérience, nous dit Doucel. C'est du point de vue européen, ça a été l'invention. C'est-à-dire qu'avant de se rendre compte qu'ils étaient en train de découvrir un nouveau continent, ils ont inventé ce que Doucel appelle l'asiaticité, le caractère asiatique des terres qu'ils étaient en train de découvrir ou de conquérir, ou d'envahir plutôt. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement persuadés, et Christophe Colomb est mort persuadé d'avoir, non pas découvert un nouveau continent, mais d'avoir découvert une nouvelle route des Indes, ils étaient tellement persuadés d'avoir affaire à des Asiatiques, à des territoires asiatiques, qu'ils ont inventé cette asiaticité. Donc c'est ça l'invention, c'est l'invention de l'asiaticité de l'Amérique, qui est tout à fait étrange. Je ne sais pas si je peux juste rappeler les deux autres parties du livre.
Oui. La
deuxième partie, elle est plus courte, mais elle est centrale, c'est le cas de le dire. C'est le renversement du point de vue. C'est-à-dire, jusqu'ici, on a pris le point de vue européen sur 1492, et sa suite, bien sûr, la période ouverte par 1492, mais en ayant, c'est très important, en ayant conscience que c'était un point de vue situé, européen. Ça veut dire, pas en disant, non, c'est le point de vue neutre, d'ailleurs, c'est pas un point de vue, c'est l'histoire telle qu'elle s'est passée. Non, c'est l'histoire du point de vue européen. Eh bien, il va y avoir ce que Enrique Doucel appelle une révolution herméneutique. C'est-à-dire qu'une révolution, on change tout, on inverse tout, et on inverse tout dans l'ordre de l'interprétation. Ça veut dire qu'on va interpréter ça totalement différemment, en prenant cette fois le point de vue indigène. Et la dernière partie du livre, la troisième partie, c'est les différentes figures de 1492 du point de vue indigène. Peut-être que je peux les nommer. La parousie des dieux, ça veut dire l'apparition des dieux, littéralement. Et donc c'est le fait qu'en fait, ils ont pris pour des dieux les conquistadors, ce qui était logique dans leur cosmologie, leur cosmovision. La deuxième figure, c'est l'invasion. Donc c'est pas une conquête, c'est une invasion, si on est du point de vue indigène. L'invasion d'intrus. La troisième figure, c'est la résistance. Résistance qui n'aboutit pas, qui échoue. Et donc la quatrième figure, c'est la fin du monde, la fin de leur monde. Et la cinquième figure, c'est le sixième soleil, puisqu'ils vivaient sous le cinquième soleil. Et le sixième soleil, c'est donc à la fois une fin du monde et une nouvelle ère qui s'ouvre.
Il y a en effet des parties très très poignantes dans cette troisième partie, justement, où il effectivement, où il tente d'entrer dans le sentiment des personnes, mais même s'il parle d'un grand nombre de personnes, il parle de pleurs, de peur. C'est, en tout cas, moi, j'ai rarement lu un texte où, on va dire, les Amérindiens sont vraiment décrits dans leur individualité, dans leurs sentiments, dans leur altérité. C'est vraiment très, très fort, ça, de dire comment les Amérindiens ont-ils perçu justement les envahisseurs. Dans ce sens-là, ce texte est vraiment très très puissant, cette partie-là.
Oui, c'est cette méthode-là de prendre le point de vue. La philosophie de Dussel, ça a toujours été une philosophie située, une philosophie du point de vue, une philosophie de la situation d'énonciation. Mmh. Et là, ce qui est très important, c'est que ça permet de réhumaniser les Indiens. C'est-à-dire de les réhumaniser donc, en tant qu'humains et en tant qu'humains singuliers. Ce n'est pas une masse, c'est des collectifs de singularité. Et grâce à des chroniques, grâce à des poèmes, grâce à différentes ressources documentaires et historiques, de témoignages de l'époque ou un peu plus tardif, Dussel arrive à accéder à l'imaginaire, aux affects, qui traversaient ces populations au moment où elles se faisaient envahir, où elles comprenaient ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire graduellement, petit à petit, tragiquement, ce qui était en train de se dérouler, d'abord sur le littoral, puis dans les civilisations plus urbaines, plus développées du centre au Mexique, puis au Pérou, au Paraguay, au Brésil, différents endroits. Et donc là, on a accès non pas en temps réel, si je puis dire, mais en tout cas de manière très très vive, à leur subjectivité, à comment est-ce qu'ils ont éprouvé ça. Et en effet, c'est, je pense, un des gros gains du livre de nous rendre, de donner accès à ça.
Emmanuel Levine, justement, ce que vous dites, d'ailleurs, l'articulation de ce que vous venez de dire avec le choix, donc je pense que vous y avez contribué également, de mettre des photos au début du livre, plusieurs pages contenant des photos, avec une chronologie, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure en antenne. Et cet aspect-là s'articulait parfaitement bien avec la pensée de Dussel.
Oui, dans la collection Le Monde qui vient, qui est la collection de Wild Project, il y a une sorte de trailer au début du livre, un trailer en images, et donc on va parcourir le livre, ensuite on va lire, on le parcourt en images. Et donc c'est très intéressant ici, par les trois parties dont j'ai parlé, puisque toute la première partie, c'est des photos de Caravelle, de Christophe Colomb, de Amerigo Vespucci, de Hernán Cortés, avec les cartes du monde de l'époque. Puis ça va être Descartes, Hegel. Donc c'est des photos comme ça. Et la césure, c'est une double page de Dussel qui rencontre des dirigeants mayas. Et donc là, on voit le changement du point de vue. Il y a une des illustrations du livre de Guaman Poma de Ayala avec donc une illustration indigène. Il y a Rigoberta Menchú qui est la prix Nobel de la paix guatémaltèque. Et la dernière double page, c'est une manifestation zapatiste au Chiapas, au Mexique. Et donc là, on a aussi le devenir du livre, ce à quoi il s'associe à la fin. Donc oui, je trouve que ces illustrations sont non seulement très belles, mais elles permettent de concrétiser, de voir concrètement ce dont on va avoir à faire dans le livre par la suite.
On va marquer une pause musicale avant de reprendre notre entretien avec vous. Emmanuel Levine, pour en parler donc du livre d'Enrique Dussel, 1492, L'occultation de l'autre, c'est publié aux éditions Wild Project. On en revient dans quelques minutes.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon, Émile. Bad boys, what you want,
What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad treats, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now giving no break. Police now giving no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes you now giving no breaks. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Bad Boys, c'est le titre de ce morceau de Inner Circle sur Aligre FM 93.1. Vous êtes dans version originale. Je reçois Emmanuel Levine qui a traduit le livre d'Enrique Doucel, 1492, L'occultation de l'autre, aux éditions Wild Project. On sait très bien, en tout cas dans ce contexte-là, qui seraient les Bad Boys, en l'occurrence. Alors, Enrique Doucel est un théologien de la libération ou un philosophe de la libération?
Les deux.
Les deux.
Il est, historiquement, il est peut-être d'abord un théologien de la libération, puisque quand il est en Israël, j'ai dit très rapidement qu'il était, qu'il avait passé de 2 ans en Israël, il est auprès d'un prêtre ouvrier, en fait, qui s'appelle Paul Gauthier, qui va être une des grandes sources d'inspiration de la théologie de la libération latino-américaine, qui a des gros concepts comme l'église des pauvres ou l'évangile libérateur. Donc tout ça, c'est des concepts qu'on retrouve déjà chez lui. Et quelqu'un comme Gustavo Gutiérrez, donc, qui écrit le livre Théologie de la libération en 68. Voilà, c'est dans la même mouvance, et Enrique Doucel est tout de suite associé, il est dans les mêmes colloques, les mêmes grands congrès, et il est tout de suite aussi respecté comme étant un théologien de la libération. Lui-même n'est pas prêtre, mais il est, c'est d'ailleurs un des rares à ne pas l'être, mais il va toute sa vie écrire des articles, écrire des livres de théologie. Et donc, à côté de son œuvre de philosophe, il est théologien de la libération. Je dis qu'il était avant d'être philosophe de la libération, puisque pour lui, il date de 2 ans plus tard. Donc on est à cheval, hein, mais c'est 2 ans plus tard, en 70, où il invente, avec d'autres, le courant de la philosophie de la libération. La grande différence, c'est la méthode, les outils, mais la visée est la même. C'est pour la libération. C'est pas seulement un discours sur la libération, mais c'est pour la libération. Et une philosophie située en Amérique latine pour la libération des opprimés. Et ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est que 1492, l'occultation de l'autre, ce sont des conférences de philosophie. Mais la matrice de ces textes, de ces conférences, pardon, c'est un ensemble d'articles de théologie qu'il écrit dans les années 80. Où c'est surtout une réflexion, par exemple, sur l'évangélisation, sur les violences liées à l'évangélisation, et sur comment on peut commencer à retourner le point de vue, justement, sur le point de vue du missionnaire, le point de vue de l'évêque, par rapport au point de vue des Guarani dans les réductions aux jésuites au Paraguay. Donc il commence déjà ça dans des articles de théologie.
Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'il a une pensée donc très très située, et en même temps décentrée. Il conduit sa réflexion philosophique, comme vous le dites avec vos mots à vous, Emmanuel Levine, à partir donc des opprimés. Mais est-ce qu'il a pris part à des luttes actives ? Est-ce qu'il y a eu vraiment des actions concrètes de sa part auprès des opprimés, que ce soit au Mexique ou d'autres pays d'Amérique latine ?
De très nombreuses, sous la forme surtout de soutien, avec sa renommée, il arrivait et disait « Ah voilà, je soutiens telle cause, tel mouvement, telle grève », dans à peu près toute l'Amérique latine. Ça s'est encore plus concrétisé au Mexique, où il a apporté son soutien notamment aux zapatistes. Disons, le grand combat de la fin de sa vie, des 20 dernières années de sa vie, ça a été auprès justement du parti Morena, où il a vraiment été un des membres fondateurs. Il était secrétaire général chargé de la formation. Donc il était chargé de la formation des militants du parti Morena. Donc une formation critique. Et donc il a organisé un nombre incalculable de stages, de rencontres, de conférences pour former, on pourrait dire, idéologiquement, même s'il aimerait sûrement peut-être pas ce mot, mais l'unité de ce qu'allait être la pensée critique de ce mouvement. Et c'est en fait très lié à sa philosophie de la libération. On pourrait dire que Morena est une tentative d'institutionnalisation, de concrétisation de sa philosophie de la libération.
Il y a un philosophe juif qui va jouer un très grand rôle dans sa vie, même dans sa pensée, c'est Emmanuel Levinas. Quel est l'apport principal de la pensée d'Emmanuel Levinas pour Doucelle?
Alors c'est justement ce qui est important pour nous aussi aujourd'hui, puisque c'est la catégorie d'altérité. Et donc c'est lié à la catégorie d'extériorité. C'est ces deux notions-là qui sont très importantes. C'est pour Doucelle, un système politique, c'est une totalité, et c'est une totalité qui exclut un nombre incalculable de gens qui vont être les autres de ce système, et qui vont être dans l'extériorité, qui vont être exclus. Ce qui est important pour Doucelle, c'est ce qu'il trouve chez Levinas, c'est que les sujets, nous, chaque sujet est travaillé par une responsabilité pour l'autre. Par une responsabilité pour... Là, Doucelle va faire une... va être hérétique, mais au lieu de dire pour l'autre absolument autre qu'est autrui dans sa singularité chez Levinas, lui va dire pour les autres situés, les autres les plus pauvres, les plus exclus, les plus opprimés. Et donc là, il y a une politisation de Levinas, une forme de trahison de Levinas, mais c'est en tout cas ça, il va piocher des catégories, il va piocher des concepts qu'il va ensuite un peu mettre à sa sauce en faisant du Doucelle à partir du Levinas. Mais cette catégorie d'autres, on voit qu'elle est non seulement très importante dans l'éthique, dans son éthique de la libération, mais aussi dans ses textes décoloniaux, comme 1492, l'occultation de l'autre. Ça veut dire que ça va être un appareillage conceptuel qui va pouvoir mobiliser en fait pour plusieurs causes, pour plusieurs domaines, mais il va très peu varié sur ces concepts de base que sont totalité, altérité, extériorité. Et d'ailleurs, Lévinas n'est pas cité dans 1492, l'occultation de l'autre. Mmh. Mais il y a un soubassement lévinassien. Si on ne le voit pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, il est là.
Mais quand on lit 1492, avec bien évidemment, on en parle depuis plusieurs minutes, de sa position par rapport à l'impérialisme, au colonialisme, cette question de l'autre, de l'altérité, vous venez de le souligner, on sait qu'il a vécu 2 ans en Israël. On est curieux de savoir qu'est-ce qu'il pense de cette, qu'est-ce qu'il a pensé de cette colonisation en Israël.
Il n'y a pas de grand texte d'Enrique Doussol, à ma connaissance, peut-être qu'ils sont inédits, sur cette question-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un traité de Doussol sur le sionisme, l'antisionisme. Il y a des parties, il y a la partie de son autobiographie, il a écrit une autobiographie intellectuelle, où il y a un passage sur son séjour en Israël. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'était pas un séjour touristique en Israël, c'était un séjour auprès des Palestiniens,
justement,
auprès des Arabes de Nazareth, et auprès des plus démunis, et il était dans une coopérative qui construisait des logements pour ces familles-là. Donc, on peut incidemment en tirer la conclusion que dès 1959-1961, puisque ce sont les dates de son séjour, il y avait déjà une critique très forte. Je ne pense pas, mais peut-être que je me trompe, du droit à l'existence de l'État d'Israël. Mais il y a une critique très forte, très précoce directement et sur le terrain. Des inégalités, des injustices, des hiérarchies sociales très fortes, des violences, des oppressions dont il est témoin. Il sera dans d'autres textes, là encore on peut piocher des petits textes. Il y a un petit texte sur Lévinas où il critique la non-lucidité de Lévinas sur les dérives autoritaires, on peut dire fasciste, des gouvernements successifs de l'État d'Israël post-mort de Rabin, donc fin des années 90, années 2000, donc après la mort de Lévinas. Mmh. Et donà on a il y a une critique il dit quelque chose comme gouvernement militaro-fasciste. Donc là, on a une critique. Donc on peut ensuite imaginer ce qu'auraient été ses positions sur le sujet. Mmh. Et notamment après le 7 octobre et les ordres génocidaires qui ont été donnés.
Il y a aussi on peut s'interroger comment la pensée d'Enrique Doussol a été. Est-ce que à quel moment sa pensée a fait l'objet d'études de qualité en langue française et de traduction? À quel moment est-ce qu'on a commencé à s'intéresser en France à son travail?
Je dirais maintenant.
C'est tout à votre honneur et aux éditions Wild Project, bien sûr. Mais j'espère que qu'on a pu le faire un peu avant quand même.
Bah, plus sérieusement, il y a eu très très peu de choses. Il y a eu très peu de choses et Enrique Doussol le prenait à la fois bien et mal. Il le prenait bien dans le sens où ça confirmait ses théories, c'est-à-dire l'eurocentrisme était confirmé dans sa non-réception, il le disait lui-même, il disait « mais vous voyez bien, si j'avais publié ça en anglais, on m'aurait lu, mais vu que je publiais en espagnol, je ne suis pas traduit et je ne suis pas lu ». Il y a eu une série de traductions de quelques livres, 5-6 livres, dont en fait la 1492 qui a été traduit une première fois en 1992, l'année même de sa parution, de sa parution originale, et qui était, il y avait une traduction très 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 problématique, donc voilà, qui a été entièrement révisée maintenant. Et en fait, il manquait d'un plan, d'un programme de traduction, d'un véritable projet. Et donc ça a été des traductions éparpillées par à chaque fois des personnes différentes qui venaient de cadres différents, de milieux différents, et qui rencontraient, par exemple, il y a le livre Éthique communautaire qui est paru au CERF, qui est un livre de théologie, Et donc, qui est publié, voilà, au CERF. Il y a les éditions sociales qui avaient publié 1492. Il y a l'Harmattan qui publie 20 thèses de politique en 2018. Donc, c'est des choses qui sont peu lisibles, en fait, pour un public intéressé, soit par la philosophie latino-américaine, soit plus récemment par le tournant décolonial, surtout qui était rarement dans des maisons légitimes du point de vue de l'université française. C'est pour ça que la première traduction que j'ai faite de Doussol, qui était Philosophie de la Libération, en 2023, j'ai choisi de la faire aux presses universitaires de France. C'est quelque chose de sérieux.
Qui impose d'une certaine façon.
Exactement, ouais. Mais c'était, c'était une stratégie bien, aussi pour que l'université, pour faire toc-toc-toc, laisser entrer cet auteur-là, et j'espère à sa suite bien d'autres auteurs latino-américains, parce qu'on en a besoin pour penser, et pour penser notre propre situation même.
Effectivement, c'était comme vous dites, c'était une façon donc de marquer une forme de légitimité et de reconnaissance.
Oui, y a une crise, je ne sais même pas si c'est une crise de légitimité, puisque c'est plutôt une absence totale de légitimité de la philosophie latino-américaine en France. Ce qui est d'autant plus cruel, je le disais, oui, Doussol a bien pris parce que ça confirmait, il a mal pris parce qu'il a vécu en France. Il a vécu, sa fille est née en France, il a un certain nombre de dates d'attaches sentimentales et même au niveau de son œuvre, beaucoup de penseurs français l'ont influencé. Et donc de ne pas être reçu à l'endroit où il a passé un moment de sa vie, où, à partir duquel il a pensé, il a écrit ses premiers livres en France en fait. Je pense que c'était une grande cruauté de sa part, et donc il était très content de voir que... ça prenait à nouveau. Mais oui, il y a une absence totale de légitimité de la philosophie latino-américaine et de la philosophie hispanophone en général. De langue espagnole. Pour les petites histoires de tambouille, mais à l'agrégation de philosophie, donc ce qui permet d'être professeur agrégé, il y a italien, mais il n'y a pas espagnol. Donc on ne considère pas que la langue espagnole puisse accoucher de pensée philosophique. Donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon, Émile.
En compagnie d'Emmanuel Levin, nous parlons donc du livre d'Enrique Doussol, 1492, L'occultation de l'autre, qui paraît aux éditions Wild Project. Alors, dans quelle mesure les concepts issus de la philosophie de la libération de Doussol alimente-t-il encore les travaux des mouvements des coloniaux? C'est un livre fondateur pour ces mouvements et cette pensée.
Oui, je dirais que c'est précisément ce livre-là qui alimente les mouvements des coloniaux latino-américains. En France, encore assez peu, je crois. Mais peut-être que je me trompe, on ne peut pas tout connaître. Mais il y a quelques concepts clés chez Doussol. Il y a le concept de mythe de la modernité dont on a déjà parlé. Il y a aussi un grand concept qui est le concept de transmodernité. Donc ça fait un peu peur, la transmodernité, qu'est-ce que c'est ? Transmodernité, c'est le dépassement de la modernité. Et en fait, c'est le projet utopique d'Enrique Doussol qui est de se demander comment est-ce qu'on va se rendre compte qu'on est déjà en train de changer d'air, que la fin du monde est proche, que la crise écologique, l'effondrement écologique est tel, les injustices, les inégalités sociales sont telles, que en fait la modernité est en train de mourir. Et on est en train de passer à une autre phase qui reste à inventer, qui reste à créer. C'est pour ça que c'est utopique, il n'y a pas de contenu vraiment très délimité. Mais la transmodernité, il y a quand même quelques petites choses, quoi, quelques petits contenus. On sait à peu près quand même quelle forme ça doit prendre. Ça doit notamment prendre la forme d'un dialogue interculturel, d'un dialogue entre les cultures, qui soit un dialogue entre Sud et Sud, entre Sud et Nord, mais qui soit un dialogue à la fois égalitaire donc, et réciproque, symétrique, entre les participants au dialogue, et qui soit un dialogue entre positions minoritaires, c'est-à-dire que ce soit positions périphériques. Donc c'est un ensemble de critères. La transmodernité, ça doit être ça, et ça doit être en rapport avec ce qu'on a dit sur la modernité, elle est duale ou elle est biface, elle a deux faces, elle a une face obscure et une face lumineuse. La transmodernité, ça doit être la récupération, on doit sauver les contenus positifs de la modernité. Donc le critère de vérité, l'état de droit, la démocratie, tous ces idéaux-là doivent être récupérés et sauvés du mythe sacrificiel dans lequel ils ont été engoncés. Et donc on doit critiquer, détruire ce mythe sacrificiel et ne retenir que les idéaux positifs. Donc c'est ça, cette transmodernité-là, qui guide beaucoup de mouvements décoloniaux comme ce vers quoi il faut aller.
Et il y a cette phrase dans le livre, page 200, je cite: tout ce qui précède, en parlant du texte bien sûr, n'est qu'une introduction historico-philosophique à la question du dialogue entre les cultures. Pour appuyer ce que vous dites.
Oui, en fait, il dit ça et il dit au tout début, je crois, de la préface, quelque chose comme j'aurais voulu écrire un livre sur la transmodernité, mais puisque ce sont des conférences, j'ai préféré leur donner un tour plus historique. Et donc, c'est pour ça qu'il va se lancer dans un autre projet. Finalement, pour la petite histoire, il ne va jamais écrire de livre complet. Il va écrire des textes, mais pas de livre complet sur la transmodernité. Mais disons que la transmodernité est à l'horizon de ce texte-là. Et que c'est plutôt la phase critique, le projet critique. C'est plutôt ce projet critique qui est sur le devant de la scène dans ce livre. Le projet utopique est à l'horizon.
Est-ce qu'on peut puiser donc une théorie critique du désastre écologique moderne, de la réflexion de Doucelle?
Oui, on le peut, surtout qu'il l'a lui-même fait. Il a lui-même fait une écologie de la libération. Dans ce texte, je pense qu'il est le plus intéressant, c'est pour aussi revenir sur quel concept irrigue les mouvements décoloniaux. J'ai oublié de parler du principal concept, mon Dieu, qui est l'ego conquiro. Et donc l'ego conquiro, c'est quoi? J'ai dit que toute la première partie du livre était faite du point de vue européen, et donc du point de vue du moi européen, de l'ego européen. Et cet ego conquiro, c'est justement cette subjectivité, ce moi qui conquiert, qui prend tout ce qui est autour de lui, y compris les sujets humains, pour des objets, mais aussi qui conquiert la nature, qui la maîtrise. Et donc, dans cette analyse, cette description de l'ego conquiro, cette description critique, on peut voir aussi la description d'une subjectivité qui arraisonne la nature, qui s'en empare, qui la maîtrise, qui la détruit aussi. Et donc, Doucelle nous montre des conquistadors qui à la fois détruisent des populations entières, qui détruisent des mémoires, des histoires, des cultures, mais qui détruisent aussi des pans entiers de la nature qu'ils envahissent. Et donc il y a une indissociabilité du caractère anti-écologique et du caractère colonial pour Doucelle.
Et est-ce qu'actuellement certaines pensées écologiques, certains mouvements écologiques ont-ils pris appui sur cette réflexion-là?
Oui, il y a un certain nombre de mouvements latino-américains, au Brésil notamment, mais aussi au Mexique, qui prennent appui sur cette conceptualité d'ego conquiro. Et aussi, pour dire quelques mots de son écologie de la libération, c'est une écologie de la vie. C'est une écologie qui met au cœur de la philosophie la vie. Et cette vie, c'est une vie humaine et autre qu'humaine. C'est pas seulement une vie humaine. C'est toute vie, le principe de cette écologie, c'est que toute vie doit pouvoir avoir les moyens de se reproduire, de subsister, de se reproduire et de s'épanouir. Et donc, ce principe-là est extrêmement important dans un certain nombre de mouvements décoloniaux et écologistes en Amérique latine.
Puisque nous sommes dans ce champ de réflexion, Emmanuel Levine, quelle différence établissez-vous entre postcolonial et décolonial?
Ah, grande question. Il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est une différence d'expérience historique. Donc le décolonial, c'est la colonisation ibérique, espagnole et portugaise, dans les territoires qu'on appelle maintenant américains, à partir de 1492. Et avec des indépendances à partir de 1810. Donc il y a à la fois le moment de la colonisation et le moment de l'indépendance qui est différent de la colonisation qui va donner lieu aux pensées postcoloniales, qui est la colonisation britannique, française, hollandaise, allemande, belge, etc. Puisque c'est des colonisations plutôt du 17e, 18e, 19e siècle, et avec des indépendances plutôt post-45. Et donc avec un recul par rapport au colonialisme, la colonisation qui n'est pas du tout le même. Donc il y a une différence vraiment radicale d'expérience historique. Ensuite, on a tendance à les opposer. En fait, il faudrait plutôt dire que le décolonial est une réaction au postcolonial. Ça veut dire, dans l'histoire des idées, quand on essaie de dire « Ah, ben, quand émerge l'un ou l'autre », le postcolonial est plutôt dans les années 70-80, alors que le décolonial naît à la fin des années 90. Et le décolonial naît comme une réaction critique par rapport au postcolonial. D'ailleurs, il y a un postcolonial latino-américain, donc c'est bien que les choses se suivent plutôt qu'elles ne s'opposent directement. Le décolonial va critiquer le postcolonial en disant « Ah, mais c'est pas assez matérialiste, c'est pas assez centré sur l'économie, il n'y a pas assez une prise en compte des rapports de domination économique, des rapports de pouvoir liés moins au symbole, moins au discours, moins à la culture et plus à la matérialité de la politique et de l'économie. » Donc on peut le voir de différentes manières, différentes articulations, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a une réaction critique, ça veut dire que les décoloniaux pensent que les pensées postcoloniales sont extrêmement importantes. Donc il ne faut pas les opposer comme deux frères ennemis.
Pour finir donc sur la construction du livre, Emmanuel Levine, on a parlé bien sûr du rôle des images. J'étais aussi, il y a un appareil analytique qui est très très fouillé. Notamment en annexe, il y a les différents sens de mots, des mots comme Europe, Occident, modernité, capitalisme tardif. Et vous présentez le contenu sémantique de ces mots, le sens qu'ils ont pris au cours de l'histoire. Qu'est-ce qui vous a porté à faire ce choix-là?
Alors, ce n'est pas moi qui ai fait ce choix, c'est les annexes.
Vous avez
parlé. Les annexes sont de Doucelle. Les annexes sont de Doucelle, j'en ai fait une, c'est l'annexe 5, c'est sur les différentes formes de 1492, parce qu'il me semblait que c'était plus clair qu'il y ait un récapitulatif, mais sinon, les autres annexes, donc il y a des cartes, il y a une chronologie, et il y a ces différents sens des mots. Je pense que Doucelle c'était des outils pédagogiques, ça veut dire il sentait qu'il avait dit un certain nombre de choses dans son texte, mais qu'il manquait des précisions sémantiques. Et donc, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que donc la première annexe, c'est les différents sens des mots Europe, Occident, modernité et capitalisme tardif. Et on voit, il les construit chronologiquement. Ça veut dire qu'il va dire qu'il y a d'abord l'Europe qui naît, le concept d'Europe naît, puis celui d'Occident, puis celui de modernité, puis celui de capitalisme tardif. Je pense que c'est davantage une reconstruction qu'il fait qu'une définition conceptuelle très, très forte. Pour lui, il essaye de voir comment on est passé de l'Europe à l'Occident, puis à la modernité, puis au capitalisme tardif, par des fusions successives. Donc lui, il aimait beaucoup faire ça. Il aimait voir comment on passait d'éléments simples à des éléments de plus en plus complexes par fusion. Par exemple, pour lui, l'Amérique latine, après il a changé d'avis, mais à un moment donné, il pensait que l'Amérique latine, c'était une forme de chrétienté spécifique qui était la fusion d'un humanisme juif avec un humanisme grec. Et donc, voilà, il y a cette idée de comment, historiquement, les concepts naissent par fusion. C'est assez étrange, mais assez intéressant.
En tout cas, je salue le travail de la maison d'édition Royal Project qui nous propose ce livre avec votre travail à vous, Emmanuel Levigne. Je vous remercie donc d'être venu à l'antenne d'Aligre FM. Je rappelle donc le titre du livre que vous avez traduit, donc, de Enrique Dussel, 1492, L'occultation de l'autre, aux origines du mythe de la modernité, c'est aux éditions Wild Project. Le temps de remercier l'équipe technique Armand Anatole et, j'ai oublié le troisième prénom, enfin toute l'équipe Milan, Anatole, Milan et Armand qui étaient avec nous ce soir, merci beaucoup. Dans un instant, c'est Dancehall Reggae Vibes et à 22h30, Audiométrique. Bonne soirée, bon week-end à l'écoute d'Aligre FM, rendez-vous samedi prochain 19h, à bientôt.
Version originale, Patrick, Léon Émile.
Waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitch's student loan shit. She hit my line to get the girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. But they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster sinister the corner hugger. Seeing this nigga shine, been annoying me like a motherfucker. This buster on me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cockroaches like Tony. Got my tanner motor. Dipping fluid, yo, I had to smoke it. Pupils dilated like silver dollars, now we know it. Call it devilish, how I do biz. Fuck these niggas talking, I leave their thoughts on my shoestrings. What? Straight to that FNH is what I'm holding. A buster that we know got 50 bowls, bust it open. We came back down it up, divided up, now what's the quotient? I split with four niggas since I'm a go-getter. I think these suckers pussy, I'ma murk the whole litter. Told my girl to leave as soon as I hung up the phone with her. Man, I heard you robbed the robbers, look Freddy, a cold nigga. Got an ice maker for a heart, made nigga from the start. Life is like a movie, all I did was play my fucking part. Stepping up the crack, the heroin, the weed, out the car. I called it Fast Freddy's, I should own a fucking restaurant. Cause back when I was 12, threw some bells on the scale. Then I got a pager. We broke them down and started selling nickels to the neighbors. Eventually the penitentiary go see me later. Kiss my mama, told her if I died and it was part of nature. What?
Vous écoutez Aligre FM 93.1.